Je vais parler de la biologie moléculaire et essayer de dégager ce qui faisait le paradigme, en quelque sorte, de la biologie moléculaire des années 60. Et pour ça, évidemment, comme les orateurs précédents, je vais être obligé de remonter un petit peu en amont, notamment dans les années 40. Et je vais même, pour commencer, revenir sur des notions très très générales. Puisqu'il s'agit de la différence entre le déterminisme et le probabilisme. Un phénomène déterministe, c'est un phénomène dans lequel, à partir du moment où vous appliquez la cause, vous avez un effet certain. Hein, l'exemple, c'est si je prends cette cassette et que je la lâche, elle va tomber, et puis elle tombera à chaque fois que je la lâcherai. Donc je suis absolument certain. La probabilité d'occurrence de l'événement, la cassette qui tombe, est de 1 à partir du moment où j'applique la cause, à partir du moment où je la lâche. Alors que le système probabiliste, c'est un petit peu différent. C'est un système dans lequel, à partir du moment où vous appliquez la cause, vous avez un effet probable. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un ou plusieurs effets probables auxquels vous pouvez affecter une probabilité qui est comprise entre 0 et 1. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait certain qu'il va se produire. Et bon, l'exemple canonique, c'est le jeu à pile ou face ou le jeu de dés. Donc vous appliquez la cause, vous jetez la pièce, et vous avez une chance sur deux, hein, d'avoir pile. Vous êtes pas tout, vous n'aurez pas pile à tous les coups. Alors, c'est assez simple. Donc ça, c'est techniquement, c'est ça la différence entre des systèmes déterministes et des systèmes probabilistes. Alors, c'est relativement simple, mais il y a des contresens qui sont faits assez fréquemment. Au-delà des cercles des physiciens ou des statisticiens, qui concernent les systèmes probabilistes et qui consistent à croire, hein, c'est souvent, on pense, et c'est une opinion qui est répandue, on pense comme ça brutalement, qu'un système qui est probabiliste, il n'est pas reproductible parce qu'il se fonde sur le hasard. Hein. Et d'une part, et puis on pense également qu'il est indéterminé dans le sens où il n'aurait pas de cause. Donc c'est des contresens. Pourquoi? Parce que bon, le fait qu'un système soit probabiliste, bon, il a une cause. Si vous jetez une pièce, il y a une cause, c'est le lancement de la pièce. Et d'autre part, sur la question de la reproductibilité, c'est un contresens. Un système probabiliste est reproductible statistiquement. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est reproductible statistiquement? Ça veut dire qu'on peut le décrire avec deux paramètres mathématiques qui sont la moyenne et la variance. Et qu'à chaque fois que vous allez le reproduire, eh bien, en moyenne, il sera centré sur une moyenne, vous obtiendrez un résultat moyen avec une certaine dispersion autour de cette moyenne qu'on appelle la variance. C'est un paramètre mathématique qui permet de mesurer l'écart par rapport à la moyenne attendue. Donc, c'est quelque chose que, sans rentrer trop techniquement, enfin, dans une description technique, qu'on peut saisir intuitivement. Je reprends l'exemple du jeu à pile ou face. Si je fais des séries je tire 10 fois la pièce à pile ou face et je vais calculer combien de fois j'ai pile. Donc je vais faire X séries de 10 lancements d'une pièce à pile ou face et je vais mesurer le nombre de fois où j'ai pile. Donc en moyenne, l'espérance mathématique de tomber sur pile est de 0,5. Donc, en moyenne, je vais avoir 50%. En moyenne, je vais trouver pile 5 fois. Mais à chaque tirage, dans certains cas, j'aurai 6. Dans certains cas, je trouverai 7. Dans certains cas, je pourrais trouver 3 ou 4. Donc, l'écart par rapport à 5. Alors, on peut faire des statistiques sur ces écarts par rapport à la moyenne de 5, et c'est ce qu'on appelle la variance. Alors, non seulement c'est reproductible statistiquement, c'est-à-dire ça peut être décrit par ces paramètres, mais il se trouve qu'il y a une loi mathématique qui s'appelle la loi des grands nombres, qui prédit que dans certains cas, lorsque le nombre de tirages est très très grand, supposez maintenant que vous fassiez des séries de 1 million de tirages, donc vous augmentez de manière très très importante le nombre de tirages, donc lorsque le nombre de tirages. Et donc, lorsque votre phénomène est basé sur un très très grand nombre d'événements aléatoires, la variance va devenir très très petite. Hein? Ça, c'est la loi des grands nombres. Et c'est aussi quelque chose que on peut saisir un peu intuitivement. Je vous ai donné l'exemple de 10 tirages à pile ou face. Vous aurez de temps en temps, vous allez tomber assez facilement sur 7 ou 8, disons. Ce qui veut dire que vous aurez 70%, si vous le mettez en pourcentage, dans 70% des cas, ou dans 80% des cas, vous aurez obtenu pile. Maintenant, si vous faites 1 million de tirages, pour obtenir 70% ou 80% de pile, ça veut dire qu'il faudrait que vous trouviez 700 000 fois ou 800 000 fois pile, ce qui est quasiment impossible. C'est-à-dire que la variance va devenir très, 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 très petite dans ce cas-là. Vous aurez bien une variance, une variabilité par rapport à la moyenne de 500 000, mais ça va être 2 000, ça va être 500, 1 000 ou 500, 10 000. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus proche de la moyenne de 50%. Donc ça, c'est la loi des grands nombres. Et en fait, il y a toute une série. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des phénomènes dans la nature qui sont fondés sur des événements aléatoires, des événements individuels aléatoires, et qui se comportent, quand on les regarde à l'œil nu, enfin à notre échelle d'observation, comme des phénomènes déterministes. Alors en fait, ce que je suis en train de vous dire là, je suis en train de reprendre une discussion une discussion qu'avait faite le physicien Schrödinger dans toute la première partie d'un livre qui a été publié en 1944 et qui a eu, donc là on va se rapprocher de la biologie moléculaire et de la biologie moléculaire des années 60, qui a eu une très très grande importance dans la genèse des idées de la biologie moléculaire, parce que dans ce livre, donc, vous devez savoir que donc la biologie moléculaire, elle est apparue dans les années 30-40, elle s'était structurée autour d'un groupe de pionniers. Et en fait, il y a eu, ce sont des physiciens, notamment un physicien, enfin des gens qui avaient eu une formation de physicien, Maxime Delbruck, qui a été en quelque sorte l'initiateur de ces premiers groupes de biologistes moléculaires. Et donc Schrödinger, qui était lui-même physicien, donc connu pour des travaux en physique quantique, s'intéressait également énormément à la biologie, et il avait écrit ce petit livre « What is Life ?», publié en 1944, dans lequel il avait en quelque sorte popularisé et systématisé toutes les idées des premiers biologistes moléculaires. Et donc, dans la première partie du bouquin, il fait une analyse pour essayer de voir qu'est-ce qui distingue, il pose la question « d'où vient l'ordre dans les systèmes naturels ?» Et il essaye et il fait une comparaison entre la physique et la biologie. Et donc, ce à quoi il est amené à dire, c'est qu'en physique, pour les raisons que j'ai évoquées, en fait, la physique statistique, toute la physique statistique fonctionne sur ce principe, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui, à l'échelle individuelle des molécules, donc les molécules ou les atomes, sont livrés au hasard brownien, c'est-à-dire que si vous les regardez, vous les prenez individuellement, par exemple, la trajectoire d'une molécule, elle fait une marche au hasard dans l'espace ou dans la solution dans laquelle elle se trouve, et vous ne pouvez pas prédire exactement quel va être son comportement. Mais si vous regardez les phénomènes physiques à notre échelle, du fait des milliards de molécules qui constituent ces systèmes, quand on le regarde et qu'on le décrit à notre échelle d'observation, on le décrit avec des équations déterministes. Donc ça, c'est toute la physique statistique. Et toute la physique statistique donc, offre multitude d'exemples de phénomènes qui sont fondés sur le hasard au niveau des événements individuels du comportement des molécules, mais qui, au niveau de notre échelle d'observation, se comportent de manière déterministe. Un exemple qu'on peut donner, c'est vous prenez une goutte de vinaigre et puis vous la mettez dans un verre d'eau et vous allez chercher à suivre l'évolution de la concentration de cette goutte de vinaigre, de la concentration de vinaigre dans l'eau, la manière dont ça va diffuser. Si vous regardez à notre échelle d'observation, vous pouvez le décrire, l'évolution dans le temps, dans le verre d'eau, avec des équations déterministes. Et pourtant, à l'échelle de chaque molécule, à chaque fois que vous répéterez l'expérience, c'est-à-dire si vous faites de manière rigoureuse la même goutte d'eau dans les mêmes conditions de température, dans le même verre d'eau, vous répéterez exactement la même expérience, c'est-à-dire vous aurez exactement la même cinétique d'évolution de la concentration du vinaigre dans l'eau. Et pourtant, à l'échelle moléculaire, chaque atome, chaque molécule se comporte de manière non reproductible. Aucun des atomes ne se comporte de la même manière, et d'une expérience à l'autre encore plus. Donc, dans ces systèmes physiques, il y a un écrasement de la variance par les grands nombres. Donc, alors pourquoi ce long préambule pour en arriver à la biologie? C'est qu'ensuite, donc Schrödinger appelle ça En physique, le principe d'ordre à partir du désordre. L'ordre que nous observons à notre échelle macroscopique est produit au départ par un désordre, par l'intégration de milliards d'événements, d'un très grand nombre d'événements aléatoires au niveau moléculaire. Alors est-ce que le même principe, parce que la question qui se pose en biologie, c'est d'où vient l'ordre en biologie, pourquoi est-ce que nous sommes des structures ordonnées, des structures reproductibles à la génération, etc. Est-ce que le même principe d'ordre à partir du désordre pourrait opérer en biologie? Et la réponse qu'il donne, c'est non. Non, alors pourquoi? Parce que le nombre de particules impliquées dans les systèmes biologiques est trop petit. Alors, il faut voir à l'époque ce qu'il a en tête, quand il fait ce raisonnement, c'est le nombre de particules, c'est les gènes, c'est les facteurs déterminant les caractères, parce que la question qui se pose, c'est comment, à partir du matériel génétique, on va créer une structure ordonnée, c'est-à-dire un phénotype, un être adulte. Et donc, comme c'est déterminé par les gènes, parce qu'il dit, les gènes, c'est quoi? Il y a quelques dizaines de chromosomes, et chacun même, au mieux, c'est de l'ordre du millier ou de la dizaine de milliers de gènes. Donc, on va être de l'ordre de la dizaine de milliers de gènes, voire 100 000, ce qui, évidemment, est très, très, très petit au regard des milliards de molécules ou de particules impliquées dans les systèmes physiques. Donc, le même principe d'écrasement de la variance, hein, par la loi des grands nombres, ne peut pas opérer en biologie. Et si les systèmes biologiques n'étaient que livrés à ces lois, les phénomènes ne seraient pas reproductibles, un ordre ne pourrait pas émerger, le phénomène ne serait pas reproductible à la génération. Donc, la conclusion, c'est qu'il doit exister un principe d'ordre qui joue directement au niveau moléculaire et qui va guider les molécules dans la construction, dans l'ontogénèse et dans la construction d'une structure vivante. Donc c'est ce qu'il appelle, en biologie, il y a cette différence entre la biologie et la physique, en biologie, il y a un principe d'ordre à partir de l'ordre, c'est-à-dire directement au niveau moléculaire. Les molécules biologiques échappent au hasard brownien, elles ne sont pas livrées qu'à ce hasard, à l'agitation brownienne, il y a quelque chose qui les contraint. Et cette chose-là, bon, je pense qu'on sait ce que c'est aujourd'hui, c'est précisément ce qu'on appelle l'information génétique. Et c'est de là que vient cette idée, de cette notion d'information génétique, c'est qu'il y a quelque chose dans le matériel génétique qui guide les molécules biologiques et qui différencie radicalement les systèmes biologiques des systèmes physiques. Et donc, cette idée était apparue, donc le livre est publié en 1944, en fait, cette notion de code génétique, hein, c'est ce qu'on appelle le code génétique, l'information génétique, était déjà préexistait à la découverte de l'ADN. Elle était déjà dans la tête de tous les biologistes moléculaires à cette époque-là. Dans les chromosomes, il y a un plan de l'organisme qui décrit l'organisme futur qui sera réalisé pendant l'ontogénèse. Mais il existe de manière virtuelle. Alors comment quelque chose qui est virtuel, qui est codé dans les gènes, va être transformé dans un processus physique et matériel pendant l'ontogénèse. C'est-à-dire comment... Alors, pour répondre à cette question, en processus physico-chimique concret. Donc, pour répondre, à l'époque, dans What is Life, Schrödinger avait fait un certain nombre de spéculations sur l'existence de lois physiques qui seraient particulières à la biologie. Donc il avait postulé qu'il existait des lois physiques qui seraient comparables à ce qui se passe au zéro absolu en physique et qui a une température à laquelle il n'y a plus de hasard brownien. Et que ces lois permettraient, donc c'était quelque chose d'un peu vague, mais enfin il essayait de raisonner avec les moyens du bord, et donc c'est quelque chose qui permettrait il y avait l'idée que le matériel génétique était un cristal apériodique qui fonctionnerait un peu comme un moule et que cette information par un mécanisme physique serait transformée. L'analogie qu'il emploie, c'est le mécanisme d'horlogerie. Donc c'est en évitant le hasard, comme les engrenages d'une mécanique, comme les engrenages d'une horlogerie qui permettrait de transformer et de démultiplier ce qui se trouve dans les gènes en une structure macroscopique. Bon, donc aujourd'hui, je pense que tout le monde sait qu'il n'y a pas de loi physique particulière à la biologie. Ces lois physiques n'ont jamais été découvertes et plus personne ne croit qu'il existe des lois physiques particulières à la biologie. Par contre, l'idée qu'il existe une propriété particulière et qui permet de transformer l'information génétique en une structure macroscopique à perdurer. Et là, on va arriver aux années 60. Et donc, dans les années 1960, à l'époque des travaux, quand il y a eu l'explosion de la biologie, 60 et 70, donc l'explosion de la biologie moléculaire et de la génétique moléculaire, en France, notamment avec les travaux de Monod et Jacob, la propriété qui a été mise en avant est la propriété de stéréospécificité. C'est-à-dire qu'on a dit que c'est la propriété de stéréospécificité. Alors, stéréospécificité, un peu d'étymologie, littéralement, ça veut dire spécificité solide. Donc, spécificité, c'est un concept qui est directement importé de la philosophie d'Aristote. C'est ce qui appartient en propre à une catégorie d'objets et qui en fait une espèce, hein. Par exemple, l'espèce des carrés, ont la propriété qui leur est propre d'avoir quatre côtés égaux et quatre angles droits. C'est cette notion-là, transposée stéréo-solide dans le monde des molécules. Et donc l'idée, c'est que les molécules biologiques ne réagissent pas, ne sont pas livrées au hasard brownien, mais vont s'emboîter, hein, en évitant le hasard, en fonction de manière spécifique. Donc c'est que chaque molécule biologique interagit avec une autre et spécifiquement, c'est-à-dire en évitant les interactions avec les autres molécules. Et donc, en fonction de sa forme et de sa charge électrique, les molécules biologiques vont s'emboîter un petit peu. Donc, c'est l'analogie que je fais qui est un peu poussée, mais c'est un but pédagogique et c'est ce qui est figuré sur ce schéma, un peu comme les pièces d'un puzzle. Hein. Donc là, on peut prendre l'exemple de ces quatre molécules. En fonction de leur forme, un peu on est dans le système du puzzle, la molécule jaune ne peut réagir qu'avec la molécule bleue ici. J'ai pas de pointeur, bon, c'est pas grave, vous pouvez voir. Donc elles vont donner, ces deux molécules bleues et jaunes vont donner naissance à tout coup, lorsque vous allez les mettre en présence à cette structure intermédiaire, là, bleu-jaune. Pareil pour la molécule marron et verte, elles vont s'emboîter spécifiquement en excluant les interactions avec les autres molécules. Et ensuite, ces deux structures intermédiaires vont interagir entre elles spécifiquement à cause de cette affinité spécifique. Et puis, finalement, vous allez créer cette structure et à partir d'un même ensemble de molécules, vous n'avez donc qu'une seule structure possible, comme dans un puzzle. Et dans la mesure, et cette structure ici à laquelle vous aboutissez, donc c'est très schématique, mais si vous avez l'ontogénèse d'une structure, hein, cette structure-là, ce qu'elle est, c'est préfigurée dans la forme et dans les propriétés individuelles des molécules, hein, puisque cette structure-là, c'est un peu préfiguré déjà dans la forme, dans ce que sont chaque molécule prise individuellement. Et comme ce sont des protéines, vous le savez, et que chaque protéine, ce qu'elle est, sa forme, dépend de sa séquence en acide aminé, et que sa séquence en acide aminé est la traduction directe de la séquence en nucléotide qui est contenue dans les gènes. Ce processus est vraiment la mise en acte physique de l'information virtuelle codée dans les gènes et répond à la question comment se construit un être vivant. Donc, cette notion de stéréospécificité, elle a été vraiment mise au cœur, si vous lisez ou vous relisez ou vous lisez les bouquins de Monod, notamment Jacques Monod, mais pas seulement, vous verrez qu'il en fait la propriété centrale des molécules, des protéines, des molécules biologiques. C'est une notion qui était apparue un petit peu avant, en fait, déjà dans les années 40, et qui avait été initialement mise en avant par les immunologistes pour décrire la réaction entre antigènes et anticorps. Et ensuite, elle a été étendue à toutes les molécules biologiques. Donc, historiquement, par exemple, le modèle, on parle souvent du modèle de Monod-Jacob. Ils ont été célèbres, entre autres, parce qu'ils ont proposé un modèle de régulation de l'activité des gènes, l'application de cette notion. Et ce modèle de régulation de régulation de l'expression des gènes était fondé sur la notion de spécificité. C'était l'idée que certaines molécules pouvaient venir interagir spécifiquement avec un gène et pas un autre, et que cette interaction allait déterminer le fait que ce gène soit actif ou pas. Alors, cette propriété, elle a une valeur heuristique très grande et on en voit encore les effets aujourd'hui qu'on peut deviner dans ce schéma. Pourquoi c'est là-dessus que se fonde l'idée que, par exemple, vous voulez décrypter n'importe quel phénomène biologique, une maladie, un processus physiologique normal. Eh bien, quel est le fil qui va nous permettre de le comprendre? C'est d'isoler le gène. À partir du moment où on aura isolé le gène, on aura la protéine, par exemple la molécule bleue ici. Et puis, à partir du moment où on aura cette molécule bleue, on pourra suivre dans l'organisme les interactions de cette molécule avec d'autres molécules spécifiques. On a des techniques qui permettent de le faire. Et ainsi, on pourra reconstruire la cascade d'événements moléculaires qui sous-tendent le processus et donc le comprendre. Et donc, c'est vraiment ce qui explique pourquoi tout le programme de recherche dont vous entendez parler, c'est-à-dire vous avez une maladie, vous cherchez le gène, c'est avec cette idée derrière la tête, c'est qu'à partir du moment où on a le gène, on a la protéine, et ensuite on va décrypter, on va décrire toutes les interactions moléculaires. Et effectivement, ça a constitué tout le programme de recherche de la biologie moléculaire à partir des années 70. Ça a consisté dans une grande mesure à rechercher les molécules spécifiques qui sont à la base de tous les processus du vivant. Là, sur ce schéma, c'est une autre manière, en fait, de présenter les choses. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui est directement issu du hasard et de la nécessité, pas sous forme de schéma, mais sous forme de texte. C'est que ça permet de comprendre qu'est-ce que c'est que le paradigme donc des années 70 et ce qu'on a appelé le réductionnisme génétique. C'est cette idée que, grâce à la spécificité, on comprend la construction d'un organisme. Le génotype, donc les gènes, l'ensemble des gènes, permettent de fabriquer les molécules. Les molécules vont s'assembler spécifiquement, pour les raisons que je viens d'expliquer, pour donner naissance à des composants, des composants cellulaires, qui eux-mêmes vont s'assembler pour donner naissance à des cellules. Les cellules, à leur surface, elles ont ce qu'on appelle des récepteurs, des molécules de membrane qui interagissent de manière spécifique, donc ce qui va leur permettre de se reconnaître et de s'assembler pour former des tissus. Toutes les cellules identiques vont former des tissus, puis elles vont s'organiser par rapport aux autres tissus. Donc, toujours grâce à la spécificité, vous avez l'organisation du niveau tissu, etc. Et comme ça, grâce à la propriété de spécificité, l'intégration des interactions spécifiques par niveau, vous pouvez construire, vous comprenez comment se construit à partir des gènes un phénotype, c'est-à-dire un être adulte. Donc ça, c'est ce qu'on trouve, c'est notamment dans le hasard et la nécessité. C'est vraiment là le paradigme de la biologie moléculaire des années 1970. Donc c'est cette idée spécificité, d'une part, et d'autre part, il y a des niveaux, c'est ce que François Jacob appelle les intégrons, il y a différents niveaux qui se superposent et on passe d'un niveau à l'autre grâce à la spécificité. Alors, c'est un paradigme qui a été extraordinairement heuristique, dans le sens où il a permis de faire des avancées très spectaculaires et il a mis en place un programme de recherche qui a été très fécond, mais en même temps, il pose des problèmes. Il pose des problèmes qui apparaissent de manière de plus en plus massive, disons aujourd'hui, et que je vais aborder. Mais alors, avant d'arriver à cette partie de mon exposé, on peut essayer de voir quelle est l'origine de la. On peut essayer de. Je voudrais faire une aparté ou une parenthèse. Et là, on va faire un bond du point de vue chronologique gigantesque en arrière, un peu au Moyen Âge et même à la fin de l'Antiquité, qui est de savoir quelle est l'origine philosophique de ce modèle. Et donc, j'ai figuré sur ce schéma, j'ai figuré sur ce schéma quelque chose qui est connu dans l'histoire des idées comme l'arbre de Porphyre. Hein. Et Porphyre, c'était donc un philosophe néo-platonicien qui a vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ et qui avait écrit un petit livre qui s'appelait l'Isagoge, qui était en fait un livre de vulgarisation où il expliquait la philosophie d'Aristote à ses élèves, qui avait pour but d'expliquer la philosophie d'Aristote à ses élèves. Et ce livre est très important dans l'histoire des idées parce que c'est à cause de ce livre, c'est sur la base de ce livre qui a été discuté au Moyen Âge, qu'est née ce qu'on a appelé la querelle des universaux, qui a eu un rôle très très important au Moyen Âge et notamment également dans la genèse de la révolution copernicienne. Et alors, à un moment donné dans le bouquin, il explique comment les espèces sont générées à partir des genres. Et alors donc, en utilisant les concepts de la métaphysique d'Aristote. Et alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Hein, quand vous avez le genre corps, vous allez rajouter un caractère spécifique qu'on appelle une différence spécifique et qui permet de créer un sous-ensemble. Et vous pouvez comme ça descendre en rajoutant de la différence spécifique, de la spécificité, jusqu'à l'espèce ultime, homme, hein, qui est la dernière espèce qui ne peut plus être divisée par la différence spécifique. Et vous savez également que, alors ce modèle, c'est pas seulement un modèle de classification des objets, c'est aussi un modèle ontogénétique. De la même manière que le modèle que je vous ai présenté du réductionnisme génétique était un modèle d'ontogenèse, celui-là également, pourquoi ? Parce que vous savez que dans le cadre de la philosophie d'Aristote, pour expliquer la genèse d'un objet, quel qu'il soit, il y a deux causes. Il y a ce que Aristote appelle la cause formelle, c'est la matière, c'est la cause matérielle, donc c'est la matière qui est indéterminée par elle-même. Et puis d'autre part, la cause formelle, c'est-à-dire que pour construire un objet particulier, il faut adjoindre une forme. La forme, c'est un petit peu l'idée platonicienne qui est descendue sur Terre et qui habite les objets. Donc l'exemple qu'il donne, si vous voulez, c'est la statue, vous avez l'argile qui est indéterminée, et la forme, eh ben, c'est tout ce que va mettre et qui guide la matière, ce que fait le sculpteur. Et en quelque sorte, il y a des processus naturels. Et donc ici, la cause formelle qui génère un homme, c'est en même temps, c'est la somme de toutes les différences spécifiques. Donc ce modèle est aussi un modèle, c'est-à-dire que la cause formelle, l'idée, c'est qu'il y a un principe d'ordre pour guider la fabrication des objets, qui est la cause formelle et qui ici est représentée par tous les niveaux et par tous les niveaux avec toutes les différences spécifiques que vous devez rajouter. Et en fait, si vous réfléchissez sur ce modèle-là et le modèle précédent, ils sont, alors évidemment, on est dans des contextes très très différents, puisque dans un cas, on est dans le cadre de la chimie du XXe siècle et des molécules, et puis dans l'autre cas, c'est la philosophie de l'être, la scolastique médiévale et au-delà. Mais du point de vue de leur mode de fonctionnement et de leur structure, ils sont très similaires. C'est-à-dire que c'est l'idée, pour qu'il y ait de l'ontogénèse, il y a des niveaux d'organisation, et que pour passer de l'un à l'autre, vous utilisez le même concept, qui est le concept de spécificité. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la cause formelle d'Aristote et l'information génétique sont, dans les deux cas, ce sont des principes d'ordre à partir de l'ordre, hein, et qu'ils ont une fonction identique. Vous avez fait allusion à mon article sur la révolution copernicienne. Alors effectivement, ça pose un petit problème du point de vue, enfin pour les gens qui s'intéressent à l'histoire des sciences, c'est que vous savez que la révolution copernicienne, ça a consisté, en fait, enfin précisément, à l'effondrement de ce système de l'arbre de Porphyre. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, dans cette histoire-là, parce que ça serait trop long, et à l'abandon de la cause formelle. C'est-à-dire que ce qu'ont fait les physiciens à la Renaissance, c'est qu'ils n'ont gardé que la cause, ce qu'on appelle la cause efficiente et la cause matérielle, et ils ont abandonné cette idée de cause formelle. Et alors que la biologie l'a maintenue. Donc même d'une certaine manière, on peut se demander, donc c'est d'où le titre de cet article que j'avais écrit, la biologie a-t-elle opéré sa révolution copernicienne ? Et donc on peut aussi, donc ça amène à un questionnement sur ce qui fait la différence entre la physique et la biologie. Et notamment, on peut se demander, à la limite, on pourrait se dire, finalement, bon, mais pourquoi pas le système d'Aristote, qui est pas valable en physique, il est peut-être après tout valide en biologie. Bon, je vous ai dit, le programme de recherche de la biologie moléculaire des années 60, ça a été de chercher à isoler les molécules spécifiques. Alors, il y a eu des progrès immenses, enfin, il y a eu une multitude de résultats dont vous avez entendu parler. On a isolé de très très nombreux gènes et de très 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 nombreuses molécules. Et à chaque fois, avec l'idée, enfin au début en tout cas, avec l'idée que ça allait permettre de vraiment mettre le doigt sur les mécanismes et de les comprendre ensuite en décryptant toute la chaîne des interactions. Mais en même temps, ce qui apparaît de plus en plus, de manière de plus en plus massive, et aujourd'hui qui est devenu quasiment un consensus parmi les biologistes moléculaires, c'est que les molécules biologiques ne présentent pas ce caractère de spécificité attendu. Hein? Par exemple, dans le cas, on va prendre l'exemple de la régulation des gènes, on s'attendait à trouver des molécules spécifiques. Donc les molécules spécifiques, en quelque sorte, sont les acteurs du programme génétique. C'est elles qui vont dire à un gène pourquoi il est actif ou pas, et la dynamique ensuite de ces signaux de gènes allumés ou éteints, ces séquences, c'est ce qu'on appelle le programme génétique. Donc on s'attendait au départ à trouver des choses qui avaient été analogues à ce qui avait été décrit un peu par Monod et Jacob dans le cas de la bactérie et de l'opéron lactose, à trouver des gènes qui allaient se coller sur un gène précis, qui allaient avoir une interaction avec un gène précis dans une cellule donnée, et que ça permettrait d'expliquer pourquoi ce gène est actif dans cette cellule précisément. Et en fait, ce qu'on a trouvé, donc on a trouvé beaucoup de molécules, mais quand on analyse leurs propriétés, c'est-à-dire leurs cibles, les partenaires avec lesquels ils sont capables d'interagir dans la cellule, on n'arrive pas à trouver cette restriction, un ou quelques partenaires, mais en fait, on en trouve des milliers, voire des dizaines de milliers. Par exemple, quand on regarde des gènes qui sont impliqués dans le développement embryonnaire, vous avez entendu parler, par exemple, les gènes HOX, les fameux gènes du développement, si on regarde leur cible dans l'ADN, elle est très très petite, la séquence consensus avec laquelle ces molécules interagissent, elle est très très petite, et c'est 5 nucléotides, ce qui fait que cette séquence, elle est présente des dizaines de milliers de fois dans le génome, dans quasiment tous les gènes. Et quand vous faites une expérience in vitro, vous prenez cette molécule et vous la mélangez avec de l'ADN, elle va pas aller se coller sur un gène précis qui correspondrait à ce à quoi on s'attend pour expliquer pourquoi ce gène est actif dans une cellule, elle se colle sur tout le génome, quasiment sur tous les gènes. Ce qui veut dire que cette propriété, leur propriété purement d'interaction avec des partenaires sur la base de l'affinité physico-chimique, ça permet pas d'expliquer pourquoi cette protéine un gène est actif dans un contexte précis. Alors d'une certaine manière, et là je zigzague entre la biologie moléculaire et la métaphysique, d'une certaine manière, cette réalité expérimentale était prévisible, parce que la spécificité, comme je vous l'ai dit, c'est pas une notion expérimentale, c'est pas une notion physico-chimique, c'est une notion métaphysique. Et qui n'a pas de traduction expérimentale. Ça veut dire que quand on analyse les interactions entre molécules, on ne peut pas mesurer la spécificité. La seule chose qu'on peut faire, c'est mesurer ce qu'on appelle les constantes cinétiques d'équilibre. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, tout interagit avec tout, et tout va s'associer plus ou moins longtemps. Je dis tout, c'est toutes les molécules. Et on a des paramètres qui sont des paramètres quantitatifs qui mesurent ça. Et quand on utilise cette technique, enfin, ou cette méthodologie plutôt, on passe du monde du tout ou rien de la spécificité, qui était décrit dans le schéma précédent, à un monde qui est beaucoup plus relatif, où en fait, tout, je pourrais dire en exagérant beaucoup, tout interagit avec tout, plus ou moins. Ça veut dire que dans certains cas, des molécules ont une très très forte affinité, elles vont créer des complexes qui vont être relativement assez stables. Dans d'autres, à l'autre cas extrême, elles sont très très peu affines, elles restent très peu longtemps en contact, et puis vous avez des cas intermédiaires. Et ça brouille tout. C'est-à-dire que quand on essaye de reconstituer la chaîne d'événements moléculaires qui se produit dans une cellule, ça complique beaucoup extraordinairement les choses par rapport au schéma idéalisé de la spécificité que je vous ai décrit. Et si on veut rendre compte de cet aspect-là, eh ben, on doit plutôt le faire selon ce schéma-là. C'est-à-dire que si vous repartez maintenant du même ensemble de molécules, elles vont toutes interagir. Vous n'avez pas une seule structure qui est possible. Du fait que toutes les molécules peuvent interagir entre elles plus ou moins, eh ben, vous avez plusieurs structures possibles qui sont toutes plus ou moins probables en fonction du nombre de molécules d'espèces différentes et toutes plus ou moins stables en fonction de ces constantes de cinétiques d'équilibre entre les complexes moléculaires. Donc la question qui se pose de nouveau, c'est de dire, mais comment au final, pendant l'ontogénèse, on est revenu un peu au point de départ, émerge une structure et pas plusieurs structures, une structure qui est l'être adulte. Alors, les réponses qui sont données en général à l'heure actuelle, dans le contexte du paradigme qui est toujours le même, pour rendre compte de cette difficulté, c'est de dire qu'en fait, il existe des cofacteurs. Quand on a deux molécules, c'est pas trop spécifique. Il y a un cofacteur moléculaire qu'on n'a pas identifié, qui lui viendrait agir quand on l'aura identifié. Ce cofacteur, en fait, c'est une combinatoire, et que la combinatoire et va conférer la spécificité, en quelque sorte, au processus. Alors, c'est un argument qui est irréfutable, d'une certaine manière, parce qu'effectivement, c'est un argument bon, qui tient, mais ce qu'on peut voir, c'est que plus le temps passe, ça devient de plus en plus flou, cette histoire. Et puis, d'autre part, vous savez que ce qui fait le caractère une proposition scientifique doit être réfutable, c'est quasiment un argument irréfutable, parce qu'on peut toujours inférer l'existence d'un cofacteur caché qui reste à découvrir. Et alors, la deuxième explication en général qu'on donne, c'est de dire que oui, mais parmi toutes ces interactions, en fait, il y en a une qui est la vraie, qui est vraiment spécifique, qui est la bonne, et probablement celle qui est la plus forte, et c'est celle-là qui est vraiment spécifique et qui a lieu dans l'organisme. Mais à nouveau, la question qui se pose, c'est de savoir comment les molécules, parce que nous, on peut le dire, mais comment est-ce que les molécules, elles savent quelle est la bonne structure ? Alors, si on intègre cette notion dans le schéma pour essayer de comprendre comment se construit un génotype, cette notion générale pour l'instant, par rapport au schéma du réductionnisme génétique, on aboutit à un schéma où la flèche, tout à l'heure, on avait une flèche ascendante qui partait du génotype pour construire le phénotype. Ici, on rajoute une petite pointe dans l'autre sens. Et l'idée, c'est que d'un côté, le génotype fabrique des molécules qui génèrent de la diversité et qui a une contrainte, c'est ce qu'on appelle en biologie une contrainte sélective, issue du phénotype, qui descend dans l'autre sens et qui vient trier dans cette diversité, qui vient trier et pour générer le phénotype. Et donc, on aboutit à un mécanisme dual, point de vue purement conceptuel, un mécanisme dual avec un couple hasard-sélection qui est analogue, en fait, à la théorie de la sélection naturelle. C'est un peu pour ça que j'ai appelé ça un peu par moment, d'une certaine manière, la biologie darwinienne, ou un schéma de biologie darwinienne par opposition au réductionnisme génétique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une contrainte qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas des gènes, et que c'est un mécanisme dual, et qu'il faut penser les deux en même temps pour comprendre comment se construit l'ontogénèse d'un être vivant. L'hypothèse que j'ai faite, que j'ai appelée là l'hypothèse du tas de cellules, c'est l'idée que c'est la sélection darwinienne, la sélection naturelle, au sens darwinien, qui vient se propager, ne s'arrête pas en fait à notre peau, ne s'arrête pas, il n'y a pas une limite. Elle rentre à l'intérieur du corps et elle vient se propager et elle vient jouer au niveau des cellules directement et que c'est elle qui fait émerger l'ordre et c'est elle qui constitue cet aspect sélectif dans le processus d'ontogénèse. Alors, c'est ce que j'ai un peu schématisé sur ce dessin. C'est l'idée, c'est un tas de cellules, donc on est très loin de mammifères, mais enfin vous savez que les premières formes de différenciation, parce que là on essaie de comprendre ce que c'est que la pluricellularité, comment se constitue un organisme pluricellulaire, les formes les plus élémentaires, ça ressemble un peu à ça, sont des protistocaryotes, des tas de cellules dans lesquelles il y a une ou deux couches différenciées qui se constituent. Donc l'idée ici, c'est que chaque cellule, contrairement au paradigme déterministe, d'une part, les cellules, l'expression des gènes n'est pas un phénomène déterministe, mais un phénomène stochastique. Chaque cellule, à cause d'événements aléatoires, je n'aurai pas le temps de trop rentrer dans des détails, il y a des modèles aussi pour étayer ça, peut changer d'état d'expression des gènes. Par exemple, ici, les cellules vertes expriment le gène A et les cellules foncées expriment le gène B, et que le régulateur, ici, c'est soumis à une régulation par une molécule, il peut bouger à cause de... Alors là, on retombe dans le hasard brownien, parce qu'il y a des phénomènes de diffusion. Eh bien, le gène A, de manière stochastique, on peut passer à un état où ça sera le gène B qui sera activé. Et l'idée ici, c'est que grâce à ces événements aléatoires, au niveau de l'expression des gènes, les cellules s'adaptent à leur micro-environnement cellulaire. Alors, les cellules, donc, et que... Il existe dans l'organisme des gradients métaboliques. Donc, l'idée, c'est que toutes les cellules ne se trouvent pas dans une position équivalente par rapport à l'accès au substrat. Donc, ici, c'est ce qu'on peut. Si vous représentez ici les cellules qui sont tout au bas de la pile, hein, Ces cellules, elles ont un accès direct au substrat. Et ce qui est figuré ici en jaune, c'est la nourriture, le nutriment qui permet à ces cellules de croître. Et ces cellules vont en consommer. Et que pour que cette structure, enfin cette colonie cellulaire se développe dans l'espace, il faut nécessairement qu'il y ait du substrat qui diffuse à travers ces cellules ou dans l'espace intercellulaire pour aller vers le haut, pour qu'il y ait d'autres cellules qui puissent se multiplier. Et que du fait donc que les premières cellules en concentrent, et à cause tout simplement des lois de la diffusion, si on représente ici la quantité de substrat auquel ont accès les cellules, il va se créer ce qu'on appelle un gradient de substrat, où la concentration de substrat, au fur et à mesure qu'on s'élève dans la colonie, va décroître. Hein? Et donc, et d'autre part, donc c'est ce qui est figuré ici, déjà à cause de ça, chaque cellule ne se trouve pas dans le même micro-environnement en termes de quantité de nourriture, hein, de nutriments. De plus, chaque cellule va utiliser son substrat, va le métaboliser et va relarguer des métabolites. Il va se créer dans cette colonie des gradients secondaires de métabolites. Donc l'idée, c'est que chaque cellule ne se trouve pas dans le même environnement métabolique, hein, dans le même environnement, et que la différenciation cellulaire, du point de vue phylogénétique, du point de vue de son origine, donc en fait de ce qui constitue la base, ça consiste à s'adapter pour les cellules, à optimiser leur croissance par rapport à ces conditions environnementales qui dépendent elles-mêmes de ce qui se passe à l'extérieur, puisque tout ça dépend de la concentration ici en substrat externe. Donc c'est ce que j'ai figuré ici, avec l'idée que les cellules bleues sont capables de croître tant qu'on est dans ces concentrations de substrat, et puis que quand on passe ici à des concentrations inférieures, elles sont plus capables de se multiplier, et que seules peuvent se multiplier, pour ça, des cellules qui activeraient d'autres gènes, par exemple les gènes B, et que donc ça serait ça. Donc ce mécanisme, c'est l'expression la plus très rapide et la plus générale de ce concept. Donc c'est l'idée que c'est la sélection naturelle elle-même qui rentre dans l'organisme et qui explique l'émergence de structures pluricellulaires. Donc, c'est ce que nous avons proposé de manière, disons, plus... Donc, vous avez fait allusion à ni Dieu ni gène récemment. Donc, cette hypothèse, à partir de là, on peut la pousser dans tous les sens. C'est un peu ce qu'on a fait dans ce bouquin avec mon collègue Pierre Sonigo. Donc, évidemment, je n'aurai pas le temps de développer tous ces aspects et je crois que je vais m'en rester là pour aujourd'hui.